Bonjour à tous et bienvenue sur cette édition de Vivre Ensemble où nous allons aborder l'insécurité culturelle. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Pierre Chevalin et Monsieur Jean-Marie Rossignol. Bonjour messieurs.
Bonjour monsieur.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'insécurité culturelle. Qui veut débuter sur le sujet ?
J'ai prévu une petite introduction pour lancer le débat et bien cadrer le débat parce que comme c'est un sujet qui est un peu sulfureux pour certains, il vaut mieux savoir exactement dans quel cadre on discute.
Eh bien, allez-y, lancez-vous alors.
Alors, élection après élection, les sociologues et les commentateurs politiques essayent de trouver, à travers l'étude des résultats électoraux, les raisons premières de la progression quasiment continue des votes en faveur du Front National en France et des votes populistes dans la plupart des pays occidentaux. En France, aujourd'hui, une explication à la faveur des médias. Une explication, les pauvres, les chômeurs votent Front National, les gagnants, ceux qui sont dans la mondialisation, votent Macron. Alors le 24 avril dernier, sur France Culture, la géographe Béatrice Gibelin récusait cette analyse. Il faut sortir de cette vision simpliste que l'on trouve un peu partout. Si on veut comprendre les choses, il faut rentrer dans la complexité un peu plus forte et dans des analyses plus fines. Vous pouvez à l'intérieur des métropoles avoir des gens qui vivent très mal, qui sont aussi au chômage, qui ont du mal à boucler leur fin de mois, mais qui se trouvent au sein d'une dynamique sociale, culturelle, qui fait qu'ils vont avoir les outils pour résister au vote Front National. En revanche, quand vous êtes dans une petite ville, dans une zone à 50 habitants au kilomètre carré, où les activités sont à l'extérieur de la ville, là, vous avez un sentiment d'abandon. Mais ce qui ne veut pas dire que vous allez forcément mal, très mal. Ainsi, pour cette géographe, existeraient des explications plus psychologiques que sociologiques et économiques. En 2012, on invoquait la désindustrialisation, la crise économique, la crise de l'euro, la précarisation du travail, la baisse du pouvoir d'achat et du niveau de vie, la périurbanisation, le sentiment de déclassement. Mais déjà, on abordait le problème du sentiment d'abandon et l'insécurité. Alors, insécurité et abandon, deux expressions qui sont revenues plusieurs fois. Alors, insécurité culturelle et insécurité identitaire. Ces expressions ont provoqué une grande polémique dès leur première apparition. Alors, ces deux expressions cherchaient à compléter un diptyque devenu familier, insécurité économique et insécurité sociale. Alors, le tout constitue une extension de la notion d'insécurité. La sécurité, celle-ci désigne un niveau de violence et de délinquance selon lequel le territoire habité n'est plus sûr au quotidien pour ses habitants. Là commence le problème. Pour une partie de la gauche et de ses relais intellectuels, l'insécurité culturelle est incompréhensible, sinon inacceptable. Ce qui n'est qu'un objet d'étude, pourquoi et comment des populations peuvent vivre ou ressentir des craintes concernant le vivre ensemble, les bouleversements de l'ordre du monde et leurs conséquences sur la définition même de ce qu'est la société française aujourd'hui. Alors, ces inquiétudes ne seraient légitimes ni sur le plan académique, ni sur le plan politique. Le simple fait de les évoquer provoquerait déjà en soi un problème, car ce serait accepter de fait les termes du débat choisis par l'extrême droite. Alors, quantifier et qualifier la violence et la délinquance est une chose, chercher à mesurer la sécurité en est une autre. C'est se placer sur le registre du ressenti, d'où la difficulté à valider cette approche. Alors en 2012, parler d'insécurité identitaire était très délicat. Souvenez-vous des violents débats à propos du ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale créé par Nicolas Sarkozy. Depuis 2015 et la parution de son livre « L'insécurité culturelle, sortir du malaise identitaire français », pour Laurent Bouvet, professeur de sciences politiques à l'Université de Versailles, Saint-Quentin-Yvelines, refuser de parler d'insécurité culturelle constitue un délit de réalité. Alors, l'insécurité culturelle, Kesako, est-ce que ça existe ? Ce qui n'est ni quantifiable ni mesurable, n'existe-t-il pas ? quid de l'amour qui est par essence non quantifiable. Donc l'insécurité culturelle, j'ai présenté cette introduction, il faut en débattre, je crois que c'est important d'en débattre, et refuser le débat est une grave erreur, comme je vous disais il y a quelques instants, le sida existe, c'est très délicat, ça a été très délicat d'en parler, mais tant qu'on a refusé d'en parler, on n'avait aucune chance de pouvoir régler le problème. Et l'insécurité culturelle, je crois que c'est quelque chose de subtil à définir, et je crois qu'avec Jean-Marie, avec un certain nombre d'exemples, on va essayer de faire comprendre aux gens ce qu'est ce ressenti.
Eh bien, alors justement, au surlendemain des élections présidentielles, on peut peut-être essayer de le quantifier, ce serait un raccourci peut-être un peu rapide, mais quelque part on a vu que Emmanuel Macron est voté majoritairement dans les grandes villes, à Montpellier c'est le cas, et dès qu'on sort de la ville et qu'on va aux alentours, c'est le Front National qui l'emporte. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça?
Excuse-moi, cette analyse des résultats que vous faites rapidement va tout à fait dans le sens des théories de Roland Bouvet, puisque il explique que le vote, enfin dans Roland Bouvet et aussi la phrase simple, c'est-à-dire que les gens qui sont dans la mondialisation de façon gagnante voteraient pour Macron, et ceux qui seraient les perdants de la mondialisation voteraient auraient voté pour Marine Le Pen. Mais c'est justement c'est ce qu'on constate. Mais pourquoi est-ce qu'ils votent comme ça? Et pourquoi est-ce que les gens, c'est ce qu'elle dit dans sa phrase, pourquoi est-ce que les gens qui sont pauvres dans certaines métropoles ne votent pas Marine Le Pen, et pourquoi ceux qui sont dans certaines zones votent Marine Le Pen, alors que sociologiquement, il semble qu'ils aient le même niveau de vie. Mmh. Et c'est là où apparaît la notion d'insécurité culturelle, qui est un des facteurs d'explication.
Moi, je voudrais replacer ce problème dans une perspective historique. Si on regarde l'évolution de notre pays, la France, pour rester à ce niveau-là, autrefois, la France était une société multiculturelle. Vous aviez des Bretons, Pierre Chevalet en est un, mais qui étaient des Bretons bretonnants. Vous aviez des Occitans, j'en suis un, et mes ancêtres étaient Occitans, Occitanisants, etc. Vous aviez différentes cultures. Donc, il y avait déjà un certain multiculturalisme qui existait, qui fonctionnait. Et puis, petit à petit, le système centralisé de la France nous a amené à avoir une langue commune, langue française, qui est devenue dominante. Et avec l'école de Jules Ferry, on tapait sur les doigts des petits Bretons, des petits Occitans et des petits d'ailleurs, chaque fois qu'ils utilisaient leur langue locale. Donc, on nous a forcé à entrer dans un moule de langue unique, ce qui ne veut pas dire que sur le plan local, il ne restait plus rien des cultures anciennes. Dans le Midi, tout en parlant français, on utilisait des expressions qui étaient de l'occitan traduit en français, qui restaient incompréhensibles pour d'autres. Par exemple, ma grand-mère, ou plutôt quand on allait à l'épicerie du village, l'épicière vous achetait une bouteille d'huile, elle vous demandait « est-ce que vous voulez que je vous la plie ?» Alors pour un occitan, ça voulait dire quelque chose, parce que le verbe « plega » en occitan, ça veut dire « plier » mais « emballer » aussi. Mais pour quelqu'un qui venait d'ailleurs, plier une bouteille, c'est pas tout à fait évident. Donc voilà, quelque chose qui existait. Et puis, comme le monde évolue très vite, après cette unification dans laquelle on nous a mis, au point de vue culturel, malgré quelques petites nuances, sont arrivées d'autres cultures et on est entré dans un monde qui se veut multiculturel. On n'a pas toujours demandé aux gens si ça leur convenait, si ça leur plaisait, et les gens se sentent un peu déstabilisés par ce changement de paradigme. Donc c'est ça qui crée chez beaucoup ce sentiment d'insécurité culturelle.
Est-ce que ce sentiment il se retraduirait par exemple à l'école maintenant, sont enseignés l'occitan, sont enseignés le breton en fonction de la région, les langues natales des régions sont enseignées. Alors est-ce que c'est une réponse qu'a cherché l'enseignement français pour répondre à cette problématique.
C'est une réponse partielle, mais souvent cet enseignement, je le vois pour l'Occitan, les gens n'ont plus l'accent spontané de ce qu'était l'accent de la langue autrefois, dans certains endroits. Ou alors on a uniformisé avec un accent toulousain, qui n'est pas celui de Béziers, qui n'est pas celui de ceci, dont les gens ne s'y retrouvent pas tout à fait. Et puis, il y a quand même le fait aussi que ce qui était la culture française qu'on enseignait autrefois à partir des écoles primaires, mais aussi quand dans le secondaire on faisait ce qu'on appelait les humanités, tout ça, ça s'est beaucoup perdu. Vous êtes jeune, moi je suis hélas beaucoup plus vieux, j'ai des enfants et des petits-enfants. Quand on les interroge sur certains grands classiques de ce qui était la culture française, ils n'en savent rien ou pratiquement rien. Donc ça fait qu'il manque de base, il manque de repères culturels pour se confronter à d'autres cultures qui arrivent, qui sont certaines très fortes et qui veulent rester ce qu'elles sont, et ils ont du mal à se reconnaître et à se situer par rapport à tout ça. Je pense que ça aussi, ça contribue dans l'esprit de beaucoup à se sentir déstabilisé, à ne plus savoir exactement quels sont leurs repères.
Alors, je pense qu'il faut revenir un peu aux problèmes politiques et donc... C'est intéressant, c'est que ce matin, sur Europe 1, Daniel Cohn-Bendit a déclaré que le programme de Marine Le Pen était stupide et irréaliste. Que tout le monde le savait, mais que malgré ça, 35% des électeurs avaient voté pour lui. Et alors, Cohn-Bendit ajoute, les électeurs de Marine Le Pen ont donc voté n'importe quoi, en toute connaissance des choses, par racisme, par haine de l'immigré. Donc, c'est sa version, Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit en déduit alors qu'il faut renforcer la lutte contre le racisme, qu'il faut extirper le racisme dans la tête des électeurs. Alors, les propos de Daniel Cohn-Bendit appellent plusieurs observations. La première observation, réduire le vote Front National à un vote essentiellement raciste, ça dénote une méconnaissance complète de la France dans son histoire et dans ses profondeurs. Alors, dans son histoire, je crois qu'il y a une chose importante dans le débat actuel, qu'il faudrait marteler sans arrêt. À chaque fois qu'on a le problème du discours sur les faits historiques, la repentance, etc., je pense qu'on devrait s'imposer de toujours mettre en parallèle, par rapport à la repentance, les choses positives qui ont été faites. Je prends un exemple. La rafle du Vel'd'Hiv est un drame. Bon, donc... Rappeler la rafle du Vel'd'Hiv, la responsabilité de l'État français vichiste sur la rafle du Vel'd'Hiv, c'est une chose excellente. Mais immédiatement, justement pour se vivre ensemble, peut-être, immédiatement, tout le monde devrait faire comme Creutzfeldt le fait très bien, comme Simone Veil, l'ancienne ministre, le faisait très bien aussi, c'est mettre en parallèle que l'État français a failli, mais que le peuple français, le petit peuple, celui qui a voté Front National à 40-50%, n'a pas failli, puisque la France est le pays qui a sauvé en quantité, en valeur absolue, le plus de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et si ça a été fait, c'était fait par des petits Français, des petits paysans, etc. Donc les élites françaises, une fois de plus, les élites mondialisées de l'époque, ont trahi, puisqu'ils étaient tous dans les restaurants avec les Allemands, etc. Mais le petit peuple, lui, le petit peuple qu'on dit rance et nauséabond, le petit peuple, lui, il a sauvé les Juifs. Et c'est ça, je pense qu'il faut toujours mettre en avant. C'est-à-dire que c'est comme pour l'éducation. C'est pour ça que je m'étonne que Cohn-Bendit aborde le sujet sur cette phase-là, puisque lui qui était contre le système éducatif autoritaire, etc., il devrait savoir qu'un gosse, un peuple qui vote mal, on peut le comparer à un enfant qui est turbulent ou qui fait des bêtises en classe. Mais si un gosse fait des bêtises, c'est pas parce qu'il est mauvais ou qu'il a mauvais esprit. C'est qu'il faut voir quelle est sa souffrance. Et je pense qu'un peuple qui vote mal, c'est qu'il a des souffrances. Et au lieu de le fustiger et de le mépriser comme on fait actuellement, je pense que... Alors, je suis heureux de voir que Emmanuel Macron, c'est la première des choses qu'il a dites, c'est qu'il allait essayer de comprendre les souffrances du peuple français.
Donc, en fait, vous pensez qu'il faut savoir valoriser les points positifs du peuple. Et finalement, c'est un petit peu paradoxal, parce que on est dans l'éducation positive, ne jamais frapper l'enfant. Et finalement, c'est ce qu'on fait les médias font par rapport à...
Exactement. Vous avez dit exactement le mot. C'est-à-dire que tous les instituteurs savent que pour faire progresser un enfant, il faut le stimuler et lui donner sa chance et de pas lui dire oh t'as mal écrit etc. Lui dire oh ce que tu as fait c'est bien. Comme on fait avec ce que font les dompteurs avec les animaux, contrairement à ce que disent certaines ligues, ils mettent pas un fer rouge sous les pattes d'un éléphant. C'est la gratification qui fait que l'éléphant il lève les pattes parce que il attend une cacahuète ou la tendresse de son maître. Donc c'est dans une relation affective et donc le vote qu'on voit actuellement, le drame de l'insécurité culturelle, c'est un drame, c'est un chagrin d'amour que annonce le peuple. C'est-à-dire que il se sent. Alors après, on va pouvoir analyser pourquoi il sent cette insécurité culturelle. Alors là, on pourrait en parler pendant des heures. Mais il y a une insécurité culturelle puisque sa culture est méprisée. Et comme en classe, puisque pour rester sur le même exemple, vous savez très bien que s'il y a un gosse qui est le chouchou de la maîtresse, celui qui fait des bêtises, il fera encore plus de bêtises. Or, quand un certain nombre de gens passent leur temps à mythifier les cultures exotiques comme si tout ce qui venait de l'étranger était bien mieux et que tout ce qui était français était rance, par définition, ça ne fait que renforcer le sentiment d'injustice que vivent les gens. Voilà.
D'accord. Et si nous rentrons dans le détail des votes, comme on disait précédemment, en ville, on a voté moins Front National qu'à la campagne. Alors, comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce qu'il y a une différence de traitement entre les gens de la campagne et les gens des villes?
Mon point de vue, c'est que par définition, les villes sont davantage ouvertes à la mixité parce qu'elles sont les premières confrontées à une mixité, à des gens venus d'ailleurs qui fonctionnent autrement, qui ont une autre couleur de peau, qui ont tout ce qu'on veut. Donc, ça s'est plus facilement réalisé que dans des terroirs ou des territoires plus restreints où il y avait autrefois une beaucoup plus grande homogénéité sociale et sociétale et où tout d'un coup, on se trouve confronté à cette évolution très rapide et c'est ça qui déstabilise les gens. Moi, je viens d'un village qui, autrefois, était un petit village de 1200 habitants, qui maintenant en compte 3000. Dans ces 3000 habitants, beaucoup de gens sont venus de la ville. Donc, on parle maintenant de territoire urbain. Donc, il y a une osmose qui se fait entre le rural et le non-rural. Mais il restait encore, et ça a pris quand même un certain temps à se faire, cette évolution, mais le milieu clos qu'était un village autrefois fonctionnait de façon rassurante entre soi. Et cette ouverture, même vers des gens qui sont français de souche, comme on dit, mais qui viennent devenir des urbains parce qu'ils viennent habiter dans les villages parce que le terrain coûte moins cher pour construire, c'est quand même une nouveauté qui a agressé la population traditionnelle ancienne. Donc ce phénomène, il est naturel, il est spontané. Et donc il faut savoir comment le traiter pour éviter les heurts, etc. Et puis si on revient à un aspect historique, autrefois, donc, l'évolution politique, sociale, sociétale, économique se faisait beaucoup plus lentement. Maintenant, on est confronté à un monde en accélération. Autrefois, la culture européenne en général était très fière de ce qu'elle était, s'imposait au reste du monde et ça lui paraissait naturel, les autres étaient dévalués. Puis on est passé à une autre vision des choses où on dit toutes les cultures se valent, toutes les cultures sont égales et c'est très bien. Mais on prend à contre-pied les gens qui avaient dans leur tête une autre façon de voir les choses. Et donc, pour les habituer, il ne faut pas les forcer, il ne faut pas les contraindre. Il faut comprendre ces réactions qui sont psychologiquement normales et naturelles. Regardez comment vivent, hein. Nous sommes des animaux parmi d'autres, avec peut-être un intellect un peu plus poussé. Mais quand vous regardez des populations animales, quand arrive une nouvelle population pas tout à fait de même nature, il y a des réactions qui sont négatives. Donc il y a des choses qui sont naturelles et spontanées, même si on peut les décrier et dire que c'est pas normal et que ça doit changer. Mais il faut comprendre la psychologie des gens et faire en sorte de la faire évoluer beaucoup plus calmement et en comprenant, comme disait Pierre, les motivations internes des gens dans cette confrontation.
Alors, le problème des cultures, ce que disait Jean-Marie, au niveau de que toutes les cultures ont leur cohérence et on ne peut pas les hiérarchiser, mais simplement, ce qu'un certain nombre de gens ont du mal à comprendre, c'est qu'on ne peut pas faire coexister des cultures. On ne peut pas faire exister des corpus de culture complètement différent. Je prends un exemple très simple. Les Anglais roulent à gauche. Les Français, ou la plupart des pays d'Europe, roulent à droite. Rouler à droite ou rouler à gauche, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, parce que de toutes les raisons, ils ne sont pas moins bons chauffeurs. Mais vous comprenez bien qu'il est dans une société, il n'est pas possible sur un même endroit de rouler à droite et à gauche en même temps. Et tout un tas de codes sociaux pose problème, parce que une convention sociale, un code social, c'est une convention. Ce n'est qu'une convention. Je prends l'exemple de la casquette et du chapeau. Notre génération, d'ailleurs l'expression française chapeau, notre génération, par définition, quand on rencontrait quelqu'un, une marque de respect, on enlevait son chapeau.
Ou son béret.
Son béret, son chapeau, sa casquette, etc. Et c'était combien de baffes les gosses de ma génération ont reçu parce qu'ils oubliaient dans leur chapeau. Maintenant, vous voyez à la télévision que le type qui passe à une émission sans chapeau, et pratiquement, c'est qu'il est, il apparaît tout nu. Moi, j'ai rien pour le chapeau contre le chapeau. Simplement, deux conventions qui ne peuvent pas cohabiter. Je prends un exemple, puisque nous sommes spécialistes d'Europe centrale avec Jean-Marie. Vous allez dans les Balkans, dans tout l'ancien espace Empire ottoman. Quand vous êtes invité en famille, même si vous êtes un hôte de marque, vous enlevez vos chaussures pour rentrer dans la maison. C'est la tradition ottomane. En Bulgarie, vous voyez, je vous montrerai des photos, quand on se réunit à 20 copains chez un copain, vous avez un marchand de chaussures dans le couloir, quoi, hein. Et on enlève ses chaussures. En France, si vous demandiez à tous les gens qui viennent chez vous actuellement d'enlever leurs chaussures, ça poserait problème. Ce sont des conventions, mais faire cohabiter ces deux conventions, ça peut se faire, mais ce n'est pas évident.
Mais vous ne pensez pas que si l'homme a traversé les âges, c'est pour sa capacité d'adaptation.
Oui.
Donc, même s'il a un petit peu de problème face au changement, c'est psychologiquement, c'est comme ça, il y a un problème de changement qui dure une certaine période. Mais ensuite, l'humain s'adapte.
Bien sûr, mais je suis entièrement d'accord avec vous, mais je reviens à mon exemple de l'école. Je veux dire que ce n'est pas en fustigeant, ce n'est pas en condamnant, ce n'est pas en méprisant qu'on fait travailler un gosse qui a des difficultés à l'école. Et tous les maîtres qui ont réussi vous disent qu'il suffit quelquefois qu'on change le maître et le gosse qui était une bourrique, un âne batté, devient un gosse tout à fait intelligent, etc. Alors, il y a un autre phénomène que je ne veux pas oublier, parce que si je l'oubliais, ça serait dommage, c'est l'exemple de l'autisme. L'exemple de l'autisme est parlant par rapport à notre sujet. Les Français sont les plus nuls, ont été, j'espère que ça va s'arranger, ont été les plus nuls dans le monde au niveau du traitement de l'autisme. Puisque l'école psychiatrique française s'est appuyée sur la psychanalyse, donc on a considéré que les enfants autistes, leur responsabilité, c'était leurs parents, leur mère en particulier, qui était coupable de tous les maux. Bon, maintenant, on a commencé à réaliser que l'autisme était une maladie qui n'était absolument pas liée...
La génétique.
Il semble que ça soit très génétique. Donc, je pense que pour le vote pour les populistes ou pour le vote Front National, je pense que je pense que l'analyse doit être faite comme pour l'autisme, dire... S'il y a vote comme ça, c'est un révélateur. Ce n'est pas une pathologie en soi. C'est pas lié aux mauvaises fréquentations du gosse. C'est fait un ressenti. Et le ressenti, c'est très important. Alors, les gens disent, mais le sentiment de sécurité, c'est pas la sécurité. Mais ça ne change rien. Si vous avez le vertige, c'est un sentiment de vertige, mais vous avez le vertige. Et c'est une réalité et qu'il faut prendre en compte. Si vous allez en montagne avec quelqu'un, si vous êtes guide de haute montagne, enfin, je n'étais pas guide, mais j'accompagnais beaucoup de gens en montagne. Si quelqu'un qui a le vertige, vous lui dites, bon, allez, avance, etc. Vous êtes sûr qu'il n'avancera absolument pas. Ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer les gens. Et je pense que ce que je vous disais tout à l'heure, la meilleure façon de lutter contre le racisme, ce n'est pas de le combattre comme si c'était une pathologie endogène, mais d'essayer de comprendre les causes de pourquoi les peuples marchent à reculons. Et ça, on pourra donner de nombreux exemples après, du ressenti. Moi, je viens de passer 3 semaines en Lozère, je peux vous garantir que en Lozère, qui était un département qui votait à droite énormément, maintenant il commence à y avoir des votes Front National, et quand vous voyez les conditions dans lesquelles on fait vivre les gens de Lozère, vous commencez à comprendre pourquoi ils commencent à voter Front National pour crier au secours.
Mais on continue juste après une petite pause musicale et nous revenons dans quelques minutes. Pierre, vous vouliez nous rajouter quelque chose par rapport à l'insécurité culturelle ?
Oui, alors donc oui, puisque c'est le sujet, on va essayer de l'aborder dans toutes ses composantes. Il y a une chose qu'on peut préciser aussi, c'est que le débat qu'il y a eu en France pendant les 3 mois sur l'euroscepticisme, la mondialisation, etc., ça participe aussi de l'insécurité culturelle. Les gens qui sont les plus frileux par rapport à l'Europe actuelle, ce sont des gens qui ressentent une frilosité parce que justement ils sentent qu'ils vont en insécurité culturelle. Parce que le grand paradoxe, c'est que les jeunes actuellement, à travers Erasmus et tout, ont l'impression de bien connaître toute l'Europe. Donc ils parlent tous en anglais.
Et ils sont pro-européens aussi.
Oui, d'accord, mais ils parlent tous en anglais, donc ils sont monoculture. Donc c'est déjà le paradoxe, c'est qu'ils sont tous pour le multiculturalisme, mais ils parlent tous anglais. Donc c'est déjà première faille. Deuxièmement, paradoxalement, ceux qui ont fait l'Europe, qui ont accepté l'Europe, les Français, en 1953, c'est un peuple dans lequel il y avait eu 2 millions de Français qui avaient été prisonniers en Allemagne. Il y a des millions d'Allemands qui avaient mis les pieds en France. Donc les deux peuples, quand ils se sont réunis, ils avaient une meilleure connaissance mutuelle en 1945 qu'aujourd'hui les Français. C'est-à-dire qu'il y a moins de Français qui connaissent, parce que c'était pas une connaissance touristique qu'ils avaient, les Français. Celui qui avait travaillé dans une ferme en Bavière pendant 4 ans et qui avait eu des relations amoureuses avec la fermière pendant que le mari était sur le front de l'Est, il avait approfondi, c'est le cas de dire vulgairement, la culture allemande. Et donc ça fait que c'était plus possible. Et actuellement, ce que nous propose, le modèle que nous propose l'Europe, c'est un modèle où il y a une certaine disparition, dilution des cultures, et le plus bel exemple, c'est au niveau linguistique, et c'est pour ça que nous, à ICO, nous sommes des fervents promoteurs du trilinguisme, parce que le monolinguisme anglais, il est complètement délétère par rapport à la construction européenne. Ah. Je pense que c'est la défense d'un minimum, on a parlé de ça dans une émission précédente avec Guylaine, mais la défense de la diversité linguistique européenne, intra-européenne, est essentielle par rapport à la cohésion des gens.
Jean-Marie, vous vouliez ajouter...
Je voudrais ajouter une autre illustration dans un domaine particulier qui, en principe, ne doit pas faire polémique. Je suis juriste de formation, j'ai travaillé sur les programmes européens de réforme administrative dans divers pays. Dans le domaine juridique, si on utilise la langue anglaise qui correspond à un système juridique particulier dans des pays qui étaient traditionnellement dans un système juridique de style continental, comme on disait, plus ou moins d'inspiration française. Quand on utilise certains mots en anglais, on peut les traduire au mot à mot en français ou dans une autre langue, mais ils n'ont pas forcément le même contenu juridique. Par exemple, quand dans un système de fonction publique, vous parlez de job ou de position en anglais, et qu'en français, vous parlez de poste ou d'emploi, ce n'est plus exactement la même chose. Et donc, dans les textes juridiques que l'on établit pour refaire un statut de la fonction publique, selon qu'on le fait dans un esprit de juridisme anglo-saxon ou qu'on le fait dans un esprit de juridisme continental, on arrive à des ambiguïtés qui peuvent conduire à des contentieux. Donc là aussi, c'est une forme d'insécurité culturelle, parce que tout en croyant parler la même langue juridique, en fait, on parle des langues juridiques différentes, avec des mots qui peuvent être interprétés différemment dans leur contenu et dans leur portée, selon qu'on s'inspire de tel système ou qu'on s'inspire de tel autre. Alors, le commun des mortels, évidemment, ne voit pas ce genre de problème. Mais c'est un problème sérieux, notamment dans le cadre européen, parce que justement, on crée des ambiguïtés qui ensuite peuvent entraîner des contentieux dans les traités internationaux.
Et bien, c'est très intéressant, vous parlez de langue. Il y a une langue européenne qui existe, l'espéranto, qui est même étudiée en Chine par des millions de Chinois. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller vers une sécurité culturelle en ayant une langue commune tout en gardant les langues des pays ?
Moi, personnellement, je pense que ça aurait été bien qu'effectivement, pour les échanges internationaux, il y ait une langue qui soit neutre, c'est-à-dire qui ne porte pas une arrière-boutique culturelle de telle origine anglo-saxonne ou de telle origine européenne, allemande, française, italienne, etc. Et que ça aurait été bien d'établir ce terrain neutre pour tout le monde. Sinon, on arrive au résultat, on va de nouveau refaire l'Eurovision, là, le concours de l'Eurovision, là, vendredi, qui va se faire, je crois, en Ukraine.
Oui.
Bon, l'année dernière, ce qui m'a frappé, c'est que pratiquement tout le monde chantait en anglais, quelle que soit leur origine géographique, ils pouvaient venir de Suède ou de Grèce ou de n'importe où, ils parlaient tous anglais. C'est pas grave pour le contenu, puisque le contenu en anglais, il est souvent débile, mais personne ne le comprend, donc c'est pas trop grave. Mais à quoi ça sert de faire l'Eurovision si c'est pour avoir ce méli-mélo de, où il n'y a plus rien de culturel qui permette de dire, ah oui, celui-là c'est un grec, celui-là c'est un allemand, celui-là c'est un italien, ou un espagnol, ou un français, etc. Donc voilà, là il y a aussi, pour cause d'insécurité culturelle, on n'ose plus mettre en avant la culture de chaque pays et on essaie de se mettre dans ce méli-mélo qui est neutre, qui est un peu de la bouillie de chapeau.
Imaginons qu'on fasse un concours des fromages d'Europe, hein, et que tout le monde présente une pâte de gruyère qui est la même consistance, et simplement ce serait un fromage de Lettonie, un fromage de... Vous voyez tout le plaisir gastronomique qu'on aurait. C'est pareil au point de vue culturel, cette Eurovision. Et en plus, ça aurait pu... Il y a 30 ans, le concours d'Eurovision était très très intéressant parce que les gens chantaient au plus possible, dans leur langue, maternelle. Et ça donnait beaucoup de piment à cette manifestation. Mais là, actuellement, c'est la grande mode anglo-américaine, à quelques petites exceptions près, plus quelques loufoqueries avec des gens déguisés, et ça présente beaucoup, beaucoup moins d'intérêt. Et je pense que là, il y avait une occasion pour l'Europe de faire la promotion de sa richesse, sa diversité culturelle, de façon très, très positive.
Ce qui n'a pas été fait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à un autre aspect à développer ?
Mais moi, je voudrais, pour finir, expliciter mieux ce que j'ai pu vivre pendant 3 semaines en Lozère. C'est que, donc, on dit les gens, comme dit la géographe, les gens qui sont dans certains quartiers en France se sentent déclassés, méprisés, négligés, et on essaie de leur faire la honte. Et alors, il y a un problème d'insécurité culturelle qu'on a essayé de régler, mais il y a là aussi un problème social et sociétal qui est très important, c'est-à-dire que quand ils voient à la télévision toutes les possibilités, ce qu'on met en avant à la télévision, toutes les possibilités des gens qui vivent dans les grandes métropoles et toute la misère culturelle, sociétale, etc. qu'ils ont chez eux, il ne faut pas s'étonner, et surtout leur niveau de vie qui est très très bas. Il faut savoir quand même que les paysans français ont des revenus qui sont inférieurs aux allocations qu'on donne aux travailleurs immigrés, aux réfugiés qui viennent en France souvent. Quand vous avez un fermier qui arrive à sortir 350 euros par mois et qui voit qu'on donne 500 euros à quelqu'un qui débarque pour le premier jour en France, c'est sûr que ça lui fait un petit choc, même si... il peut être très très compatissant. Et donc il faut savoir que pour beaucoup de gens en France, dans certains départements, le luxe c'est avoir une boulangerie à moins de 15 km, avoir un boucher à moins de 15 km, un médecin à moins de 30 km, une poste à moins de 30 km. Et je pourrais faire la liste de tout ce qui est à moins de... Une école. L'école, dans beaucoup de villages, c'était un luxe extraordinaire. Donc... on ne comprend pas, et alors ce qu'il y a surtout, de faire passer le discours au niveau de la rentabilité économique, c'est une aberration, parce que ce qui fait la richesse de la France, c'est cette diversité culturelle. Ceux qui entretiennent le paysage en France, qui en font que c'est un pays les plus touristiques, ce sont les milliers de gens, des paysans qui gardent le terrain. Donc ça serait quand même intéressant qu'on leur garantisse une qualité de vie et que simplement, on ne les revoie pas simplement l'été une fois de temps en temps pour jeter nos poubelles dans leurs champs.
Est-ce que vous n'avez pas une vision positive de l'avenir ? Je veux dire, avec Internet, le travail pourrait être amené à être ailleurs que dans les villes.
Bien sûr, mais j'ai oublié que le luxe à la campagne, c'est d'avoir Internet
aussi.
Et un téléphone portable qui marche. C'est-à-dire que dans tous les domaines qui font la qualité de vie de la métropole, ils sont déclassés en tout. Et en plus, ils sont fustigés, puisqu'on se moque d'eux, puisque, écoutez bien les discours, le nombre d'intellectuels qui ont dit que c'était la France rance et nauséabonde. Et comme je disais tout à l'heure, cette France rance et nauséabonde, c'est elle qui a sauvé les Juifs. Les élites de l'époque, ils parlaient allemand et ils étaient déjà vendus à Moscou, en plus.
Je ne sais pas si on a encore un peu de temps, on est à la limite. Je voudrais donner, juste pour terminer, une petite illustration sur un cas particulier. J'ai là un document qui est signé par un Anglais, Donald Lilliston, qui est membre d'une organisation de chefs d'établissement d'enseignement, et qui racontait qu'il y a quelques années, il était venu en France pour participer à un colloque d'enseignants de français, et qu'il se trouvait avec un groupe d'enseignants allemands, finlandais, italiens, etc., et que le proviseur du lycée français qui les recevait s'étonnait de les entendre parler entre eux en français plutôt qu'en anglais. Alors, si un proviseur, et il fait remarquer, si un proviseur de lycée français s'étonne que nous qui sommes là par définition, parce que nous sommes aussi francophones, nous parlions en français plutôt qu'en anglais, on peut s'inquiéter si un proviseur n'est pas assez sûr de la langue qui est la sienne et que les autres pratiquent, que les élèves de ces lycées se trouvent aussi inquiets de ne pas pouvoir parler leur langue française ailleurs et se croient obligés de parler anglais.
Un dernier point, parce que je pense...
Allez,
que...
un dernier point, rapidement.
Sur l'espéranto, parce que je pense qu'on a laissé passer quelque chose. L'espéranto, comme langue d'usage d'un point de vue très très pratique, pourquoi pas ? On pourrait imaginer que dans les aéroports, tout ça. Mais une langue, c'est pas simplement des mots, c'est une culture qui va avec. Et donc, c'est impossible, l'expérience prouve, que c'est quasiment impossible d'approfondir, de communiquer... Quand un espérantiste qui parle espérantiste avec un fond français, il ne dira pas la même chose qu'un espérantiste qui parle avec un fond allemand. Donc c'est pour ça que c'est très important de garder référence à la langue d'origine. Parce qu'une langue, c'est ce qu'on dit à ICO, ce n'est pas simplement un outil, c'est un terreau et c'est un tuteur de votre pensée. Voilà.
L'espéranto peut être le sujet de notre prochaine discussion. Nous ne savons pas. Merci en tout cas à Pierre Chevelin et Jean-Marie Rossignol de l'association ICO d'avoir partagé vos points de vue, vos expériences sur l'insécurité culturelle.
Merci à vous.
Merci.
Et on se retrouve bientôt sur Vivre Ensemble, Radio FM+. Au revoir.
Au revoir.